Nous continuons nos méditations dans l'évangile de Marc. Et là, nous sommes arrivés au chapitre, nous sommes toujours dans le chapitre 10. C'est ce qu'on appelle la demande des fils de Zébédée. Et nous allons lire un petit peu avant, au verset 32, Marc 10, 32 jusqu'à 45. Jésus commence par annoncer à nouveau sa mort et sa résurrection. Puis les fils de Zébédée, Jean et Jacques, font une demande tout à fait anachronique. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, troublés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront, et ils le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Alors les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit, « Mais que désirez-vous que je fasse pour vous » « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Lui dire, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à la droite, et à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 apôtres qui avaient entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs de nations les tyrannisent, que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, votre esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Seigneur, c'est par ta parole que tu as créé le monde, hein, et tout fut. Seigneur, crée en nous de nouvelles choses par ta parole. Amen. Alors nous avons ici tout d'abord une nouvelle annonce. Jésus fait une nouvelle annonce de ce qui allait arriver. Au fur et à mesure où il avance vers Jérusalem pour mourir, pour donner sa vie pour nous, il y a une série d'annonces qui préparent les apôtres pour qu'ils ne soient pas complètement découragés quand les choses arriveront. Une première annonce, une seconde, la troisième, et donc une annonce de ce qui sera, de ce qui va arriver. Nous savons que tout ce qui est arrivé à la lettre. Alors il dit qu'il sera rejeté, humilié, méprisé, et qu'il sera seul finalement. Et c'est pas anachronique, hein, c'est pas tout à fait, ça a du sens le fait qu'il le suive. Mais de loin, et Jésus est seul en tête qui va à Jérusalem. Il est déjà seul, il le sera de plus en plus, jusqu'à la croix. Et donc c'est la troisième mention de la passion du Christ. Tout le monde est assez effrayé, dans la crainte, troublé par cette perspective d'avenir assez sombre. Et tandis que le groupe des disciples monte à Jérusalem en le suivant, eh bien voilà que les 2 frères, Jacques et Jean, se font remarquer. Ceux que Jésus a surnommés les fils du tonnerre, parce qu'il voulait que le tonnerre tombe sur un village de Samaritains qui n'avait pas ouvert tout de suite ses portes à Jésus, Eh bien, les deux fils de Zébédée, donc, et de Salomé, si on voit bien les autres récits de la Bible, eh bien, arrivent donc à la hauteur du maître et ils l'entretiennent en privé. Mais les apôtres entendent tout. Alors, leur demande est incroyable. Même si nous commençons à être habitués à ces incompréhensions de la part des disciples, nous sommes cependant surpris de l'audace et de la démesure de la demande de Jacques et de Jean. Le passage que nous venons de lire se déroule en quatre étapes. Il y a premièrement la demande des fils de Zébédée, suivie de la réponse de Jésus, puis la réaction indignée des 10 autres disciples, qui est très intéressante, ce qui entraîne enfin un développement de Jésus sur le pouvoir, sur les risques du pouvoir. Et enfin, il va parler du sens de sa mort, de sa vie qui sera donnée en rançon pour nous tous et de l'exemple que cela sera pour nous qui sommes appelés à servir. Alors tout d'abord, il y a la demande des deux frères. La requête de Jacques et de Jean semble, on l'a dit, anachronique. Suite aux propos annonçant la mise à mort prochaine de Jésus, nous pourrions nous attendre à d'autres réactions, à d'autres demandes. Seigneur, aide-nous, nous n'y arriverons pas, nous demandons ton secours pour pouvoir vivre ces moments tellement difficiles. Mais en fait, le propos de Jésus, même s'il est dur à saisir et à accepter, ressemble à un précédent discours. Il avait déjà dit récemment qu'il fallait être capable de tout perdre pour sauver sa vie. Il avait dit qu'il fallait accepter la condition de disciples et même de serviteurs, d'esclaves, pour que le Fils de l'homme n'ait pas à rougir au jour de sa gloire, au jour de la gloire de Dieu son Père. C'était en Marc 8, 34, au début du chapitre 9. Et donc, sans doute que les deux fils de Zébédée font des parallèles entre cet enseignement déjà entendu et celui que vient d'annoncer Jésus. Ils ne retiennent que la fin, de ce que Jésus vient de dire, ils retiennent que le mot « résurrection » et pas le mot « mort »,« flagellation », etc. Et de ce que Jésus a dit en Marc 8, ils se souviennent de la finale aussi, c'est-à-dire du mot « gloire ». Ils se souviennent de ce qui arrivera après le drame, à savoir la gloire de Jésus. Alors une idée, à l'idée de la gloire finale, ils rebondissent sur cette question, et sur cette situation, mais là où Jésus avait parlé de la gloire de Dieu son Père, eux ils disent « ta gloire ». Alors voilà, disent-ils, lorsque tu seras dans ta gloire, donne-nous une place de choix, une place d'honneur. Alors ils avaient beaucoup de prétentions. Ils pouvaient dire « donne-nous une place d'honneur parce qu'après tout, ne sommes-nous pas les fils du tonnerre ?» N'avons-nous pas été avec toi lors de la transfiguration? Tu nous as pris avec Pierre, tous les deux. Tu nous as pris avec Pierre aussi, tous les deux, pour ressusciter la fille de Jaïrus. Nous sommes tes privilégiés, nous sommes un peu tes cousins, puisque notre mère, si on regarde les évangiles, et aussi ta tante, Salomé, d'un point de vue humain. Ne sommes-nous pas aussi une famille aisée? Nous avons un commerce, nous avons nous avons une petite entreprise de pêche, après tout. Nous avons de bonnes relations avec les dirigeants de Jérusalem, ce que montrera la suite du récit. Alors, voilà ce qu'il demande. Mais Jésus venait de parler de moqueries, de crachats, de coups de fouet et de mort. Eux parlent de places privilégiées. Ils sont en complet décalage. Peut-être savait-il d'ailleurs qu'il demandait beaucoup, parce qu'on voit avec quelle précaution ils avancent leur demande. Avant même de formuler leur requête, ils demandent à Jésus de s'engager à répondre positivement à leur requête. Mais Jésus, avec sagesse, prudence, ménage sa réponse. Il ne s'engage pas comme cela, en faisant une promesse inconsidérée. Alors vous vous souvenez de quelqu'un dans l'évangile qui a fait une promesse inconsidérée, qui s'est engagé, qui s'est engagé de façon fatale. C'est l'engagement fatal d'Hérode, qui avait dit à sa belle-fille, « Je t'accorde d'avance que tu me demanderas même la moitié de mon royaume. » Et cela avait coûté la tête de Jean-Baptiste, la tête de quelqu'un d'autre, hein, mais la tête de Jean-Baptiste. Alors, pas de promesse à considérer. Et une fois que les frères ont enfin formulé leur demande, la réponse de Jésus se fait en deux temps. Il y a premièrement une certaine exaspération de Jésus. Jésus signale avec force l'inconscience d'une telle demande. Et même une double inconscience, puisqu'ils disent ensuite être capables de boire la coupe. Et Jésus précise alors ce qu'est cette coupe et ce qu'est boire cette coupe et ce qu'est cet autre baptême. Alors, le baptême. Le baptême dont parle ici Jésus, c'est un baptême par lequel il doit encore passer. Un jour, les deux frères y passeront aussi, on y reviendra. Ici, il faut comprendre que c'est le baptême. Le baptême, c'est celui de la mort. Hein. Le baptême, c'est une mort et une résurrection. Hein. Mais la première partie du baptême, c'est mourir. On est plongé dans l'eau. Hein. Et c'est un symbole d'abord de mort. Hein. Et Jésus parle de sa mort sur la croix comme un baptême. Il sera plongé. Hein. Il sera immergé par la mort. Hein. Il sera plongé. Hein. Il va revêtir aussi toutes les injustices, tous les péchés du monde sur lui. Et il va mourir en étant condamné pour ses péchés. Hein. Plongé dans la mort, dans la condamnation, dans la séparation avec Dieu. Hein. Voilà l'immersion dans laquelle il sera. Hein. Et puis il y a la coupe. Il s'agit d'une image, bien sûr. Pour les auditeurs immédiats de Jésus, à quoi fait référence cette coupe? Alors nous pensons, nous qui sommes après la mort et la résurrection de Jésus, nous pensons à la coupe de la Sainte-Seine, par exemple. Nous pensons au sacrifice de Jésus. C'est parce que nous interprétons déjà l'histoire à partir de la mort et de la résurrection. Nous connaissons la suite. Mais pour les disciples qui ont tant de mal à saisir le sacrifice à venir, boire la coupe, ça a un sens plus direct. C'est une expression de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on parle de coupe. Et c'est souvent une coupe amère. Dans les textes de l'Ancien Testament, la coupe que Dieu donne à boire à une personne ou à un peuple est souvent une coupe amère. C'est la coupe du jugement. Et puisque Marc cite souvent Ésaïe, on ne sera pas étonné de trouver des citations dans Ésaïe allant dans ce sens. Par exemple, je vais lire quelques versets d'Ésaïe 51, 17 à 22. Réveille-toi, debout, Jérusalem, toi qui as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. C'est un calice, une coupe de vertige que tu as bu, que tu as vidée. Personne ne la guide, aucun des fils qu'elle a enfantés, personne ne lui prend la main, aucun des fils qu'elle a élevés. Ce double malheur qui t'est arrivé, qui t'en plaindra? Le pillage, la ruine, la famine, l'épée, qui t'en consolera? Tes fils gisent sans force au coin de toutes les rues, comme l'antilope prise au filet, ivre de la fureur de l'Éternel, de la menace de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre et non de vin, ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, défenseur de ton peuple. Voici que je te retire de la main de la coupe de vertige, le calice, la coupe de ma fureur. Tu n'y boiras plus désormais. Donc c'était un passage d'Ésaïe qui annonçait le jugement de Dieu qui aurait des limites, qui serait arrêté avant, tant que Israël ne puisse plus le supporter. Et donc dans un autre psaume, Dieu manifeste sa colère et sa correction, ses châtiments sur les méchants. Il est dit dans le psaume 75, verset 9, « L'Éternel a en main une coupe où fermente un vin épicé. Il en versera, ils en suceront la lie, ils boiront tous les impies de la terre. » Alors vous avez remarqué l'expression, « boire la coupe jusqu'à la lie ». C'est une expression qu'on emploie encore en français et qui vient de la Bible. Ça veut dire « accepter le pire jusqu'au bout ». Et donc avec de tels rappels en tête, n'oublions pas que les disciples connaissaient leur Ancien Testament par cœur. Avec de tels rappels en tête, les disciples ne peuvent se faire d'illusions. Boire la coupe, c'est bien une annonce dramatique de la mort qui vient. Et c'est dans la droite ligne des prophéties de Jésus sur lui-même. Or, cette coupe, les deux frères disent qu'ils sont prêts à la boire. le doute ne semble pas les toucher, mais alors pas du tout. Et ça nous rappelle que l'ambition est aveugle, et que l'ambition rend aveugle. Et c'est bien le cas pour eux. Nous savons que la réalité ne veut pas correspondre à ça. À Gethsémané, Jésus sera seul pour boire la coupe de la souffrance. Il y aura Pierre, il y aura Jacques, il y aura Jean, mais ils se seront endormis. À la croix, il en est de même. Que voit-on sur la croix qui se dresse sur le mont Golgotha? Il y a bien quelqu'un à sa droite, il y a bien quelqu'un à sa gauche. Deux autres crucifiés qui ne sont ni Jacques ni Jean, parce que Jacques et Jean, comme les autres disciples, se sont enfuis lorsque Jésus a été arrêté. C'est seul que Jésus va donner sa vie. Et le salut reposera sur Jésus, et lui uniquement sur lui, et non pas sur les hommes. Un jour, après une grande transformation dans leur cœur, Jacques et Jean vont donner certainement leur vie pour Jésus, comme les autres apôtres. Jacques sera le premier à mourir, en Actes chapitre 12, premier apôtre. Et Jean plus tard, à Patmos, et sans doute un peu plus tard. Mais le chemin est encore bien long, le chemin à parcourir vers ce don de leur vie. Alors, nous voyons maintenant la réaction des autres disciples. Les 10 autres disciples ont été les auditeurs de ce qui vient de se produire, comme nous le sommes, nous aussi. Et ils sont indignés, comme nous le sommes aussi, nous sommes indignés. Et cette indignation à l'encontre des fils de Zébédée permet à Jésus de relancer son enseignement. Jacques et Jean ont été trop loin. Mais en fait, qu'est-ce qui a choqué les dix disciples? Est-ce la demande jugée déplacée, prétentieuse? Ou est-ce que les frères sont indirectement accusés d'avoir tenté de saisir des places que chacun espérait pour lui? Pierre et les autres espéraient ces places pour eux. On ne peut conclure sur les motivations de l'indignation des 10 disciples. Mais on se dit que les sentiments, pour le moins, devaient être partagés dans leur cœur, comme il est dans le nôtre. Notre indignation est aussi à des racines très mélangées. En tout cas, c'est à tous que Jésus parle ensuite. Et les ayant appelés, est-il dit. C'est-à-dire, il les appelle tous, et c'est tous qui ont besoin d'entendre ce qu'il va dire. Voilà les 12 à nouveau à l'écoute d'un développement sur le thème sur ce thème souvent abordé par Jésus. Et donc nous avons une instruction maintenant sur la vraie grandeur. Le Seigneur va parler de ceux qui dirigent le monde, des chefs des nations. Il va marquer la différence entre ce type de fonctionnement et ce qui doit se vivre entre croyants véritables, et donc par extension dans l'Église. Il y a un détail au verset 42 qui est intéressant. Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations, de ceux qui pensent gouverner les nations, peu importe votre version, il y a cette idée qu'il y a un décalage entre ce qu'ils pensent et ce qui est. Jésus laisse planer un doute sérieux sur l'autorité et l'origine de l'autorité des chefs des nations et des gouvernements. Eux, ils pensent gouverner. Ils paraissent d'ailleurs gouverner. Les pouvoirs ne sont pas là où on le croit. Il y a une histoire au-dessus des histoires, on va dire. Et le maître de l'histoire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'est pas du côté de ceux qui pensent, qui semblent, qui paraissent détenir le pouvoir. D'ailleurs, Jésus, devant Pilate, ne va pas dire autre chose. « Tu n'aurais pas le pouvoir que tu as si mon Père ne te l'avait donné. » En plus de cette remarque, il faut aussi noter la force et la violence derrière les expressions par lesquelles Jésus parle du pouvoir et des chefs. Il parle de dominer, il parle de commander, il parle d'exercer l'autorité. Ce sont des mots très très forts. Ce sont des expressions fortes qui marquent presque l'oppression. On n'est jamais loin de l'oppression. Alors que dit Jésus? Eh bien, entre nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes chers amis. Dans le collège des disciples, ce n'est pas possible. Dans l'Église, ce serait intolérable, et surtout, cela irait à l'encontre de la volonté du Maître. Donc Jacques et Jean, qui voulaient les places d'honneur, ne cherchaient-ils pas aussi le pouvoir lié à pareille structure, copiée en fin de compte, copier-coller, sur la politique terrestre? Jésus, lui, remet les pendules à l'heure. Encore une fois, les premiers doivent être serviteurs. Il le disait déjà lors de la lecture précédente, la fois passée. Il le dit encore deux fois ici, dans les versets 43 et 44, c'est-à-dire l'importance du message pour les disciples de tous les temps. Et franchement, il est étonnant que l'Église, que les Églises, tout au long de l'histoire, et jusqu'aujourd'hui, soient à ce point oublieuses d'une telle directive venant de leur Seigneur et tellement de fois répétée par leur Seigneur. Alors, il y a encore un point sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui. C'est en fait un mot. Jésus dit que sa vie est donnée, offerte en rançon. Alors, payer une rançon. Payer une rançon, c'est quoi? Chez les Hébreux de l'Ancien Testament, la rançon, c'est ce que l'esclave doit payer pour être affranchi, pour être libre, enfin. On pourrait parler donc de rachat. Ou bien c'est ce qu'il faut payer pour dédommager quelqu'un à qui l'on a fait un très grand tort. Payer la rançon, c'est éviter ainsi la mise à mort pour faute grave. C'est une sorte de dédommagement. Si quelqu'un est dans la capacité de payer la rançon qui est due, s'il ne peut dédommager, rembourser, racheter, un autre membre de la famille doit le faire. Un autre membre de la famille, de sa famille, peut en tout cas le faire, peut venir à son aide. Et ce tiers, cet autre membre, va alors payer pour une faute qu'il n'a pas commise lui-même. Il va dédommager pour un état qui n'est pas le sien. Il apporte ainsi une caution, une garantie. Donc être garant, c'est être ce tiers. C'est être le rédempteur, là. Et la rançon, c'est le prix à payer. En d'autres termes, Jésus se porte garant pour payer la rançon que nous, pécheurs coupables, nous sommes incapables de payer. Il est tel un parent, il est comme un ami généreux. Et Jésus s'offre en garant et en rançon lui-même. Sa vie même est offerte en rançon pour sauver la vie des hommes, pour sauver votre vie, pour sauver ma vie. C'est ce qu'on nomme par d'autres mots dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on nomme substitution. On la retrouve cette idée déjà dans l'Ancien Testament. Et ça ne vous étonnera pas, on le trouve dans Isaïe. Jésus... Il est promis quelqu'un, Dieu se présente comme quelqu'un qui prend la place du pécheur. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, Cush et Séba à ta place. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Aussi je livre des hommes à la place des peuples en rançon de ta vie. Donc c'est cette idée déjà, dans l'Ancien Testament. Dieu. Et donc, comme Dieu a fait pour Israël, à un petit niveau, on va dire, Jésus accepte de payer n'importe quel prix, jusqu'à sa vie, pour ses enfants, des enfants de toute origine, et pour leur donner la vie véritable, la vie éternelle. Alors là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce verset 45 que nous retrouvons, on ne l'a pas fait exprès, que nous retrouvons sur la chair que vous avez devant vous, il est là depuis un certain temps, eh bien, nous avons la conclusion, finalement, de cette prédication. Ce verset est l'un des plus clairs pour résumer la vie et l'œuvre de Jésus. D'abord, Jésus se présente comme celui qui est venu. « Je suis venu », dit-il. Donc, il est venu. L'expression confirme sa divinité. Il existait avant de venir. Parce qu'il est venu. Et donc, cette expression confirme qu'il était déjà Dieu de toute éternité, avant de prendre chair et de devenir homme. Et donc, ça laisse supposer son existence éternelle. Et aussi, ça confirme sa divinité parce que sa vie a une valeur suffisante. Celui qui vient n'est pas n'importe qui. Sa vie a une valeur divine. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et sa vie, sa mort à notre place peut vraiment libérer les hommes de toute origine en aussi grand nombre, une multitude extraordinaire. Le reste du Nouveau Testament nous présente Jésus comme l'agneau de Dieu, comme la victime expiatoire, qui a payé le prix pour délivrer de la juste condamnation les pécheurs que nous étions, les pécheurs coupables et sans mérite que nous étions. Et donc, il est aussi, ce verset présente Jésus comme le Fils de l'homme. Il est bon de revenir sur cette expression. Le Fils de l'homme, ça veut dire, il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, en Daniel 7, 13 à 14, le Fils de l'homme, c'est Dieu. Il est dit, l'Éternel a donné au Fils de l'homme domination, honneur, royauté, tous les peuples le servent, il possède une domination éternelle qui ne finira jamais. C'est Dieu. Et donc, cet être suprême ira jusqu'à donner sa vie pour libérer les esclaves que nous sommes. Voilà le message de ce verset. Et ce verset explique ce que Jésus est venu faire pour nous. Je donne ma vie en rançon pour beaucoup. Je veux libérer beaucoup de gens. Et la question qui se pose ce matin, c'est est-ce que nous faisons partie de ces beaucoup, de cette multitude pour lesquelles Jésus est venu donner sa vie en rançon? Cette rançon, cette libération, Jésus l'a acquise à la croix, à prix cher, un prix énorme. Eh bien, elle nous est donnée gratuitement si nous l'acceptons avec des mains vides. Et si nous venons sans mérite pour recevoir cette libération, cette réconciliation, cette communion retrouvée avec Dieu. Mais ce verset nous révèle aussi Jésus comme l'exemple à suivre. Lui qui était Dieu, né de Dieu, a donné sa vie pour libérer les esclaves que nous sommes. Et nous sommes appelés aussi, voilà la vraie grandeur. Et nous sommes appelés, c'est la grandeur du service. Voulons-nous devenir grands à l'exemple de Jésus? Non pas comme Jean et Jacques voulaient l'être, mais voulons-nous devenir grands à l'exemple de Jésus? Voilà le projet du Seigneur Jésus pour chacun de nous dans son Église qu'il est en train de bâtir. Amen.